Commence, on lit un verset.
Oui.
Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Verset 37.
Tu peux commencer. Ah, d'accord. Okay. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Je continue.
Non.
Et se tint derrière, au pied de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle mouilla de ses larmes, et puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum.
Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qu'il le touche, il connaîtrait que c'est
une pécheresse. Oui. C'est écrit tellement petit, ma Bible.
Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, mais parle, répondit-il.
Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50.
Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette.
Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, mais celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé.
Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, voici. Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux.
Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table, avec lui, se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix.
Amen.
Amen. Alors imaginez un peu un repas chez Simon. Hein? Bon, il a invité des personnes, ses amis pharisiens, et quand ils arrivent, il les embrasse chaleureusement. Hein? C'est la moindre des choses. Il ordonne à son personnel de leur laver les pieds, salis par la poussière du chemin. Hein? Et puis il va leur verser un peu d'huile parfumée, sur sa tête, hein, c'est un homme bien élevé, hein, on dirait. Pourtant, un jour, il invite Jésus. Le Seigneur n'a pas le droit à tous ses honneurs, alors que c'est lui. La personne qui le mérite le plus, le plus grand de la terre, qui était sur la terre, le plus grand. C'est... Quelqu'un méritait cet accueil, c'était bien Jésus, le Fils de Dieu. Il a invité pour examiner son attitude, il y avait un esprit de jugement, bien sûr, il n'a pas invité pour l'honorer, comme il aurait dû le faire. Alors c'est une femme qui avait perdu sa réputation, qui était souillée, qui était étrangère, même à la maison de Simon d'ailleurs, hein, qui vient là à ses pieds, et qui, dans une attitude de profonde repentance, hein, il faut le dire, elle pleure sur ses péchés au point de mouiller les pieds du Seigneur. Elle les essuie avec ses cheveux, elle les embrasse, elle y verse du parfum. C'est aux pharisiens, c'est aux sacrificateurs, aux anciens du peuple que Jésus dira, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Hein, c'était des gens versés dans la religion. Hein. Nous avons une démonstration dans ce texte de l'Évangile de ce que produit la repentance. Simon le pharisien drapé dans sa propre justice. Il jette un regard plein de mépris sur cette femme. Oh. Il trouve anormal que Jésus ne la rejette pas. Il se sentait comme ces gens-là, comme la quintessence du peuple, comme le meilleur, les meilleurs du peuple. Mais Jésus, c'est celui qui a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, il est certain qu'en tant que chrétien, enfant de Dieu, il ne s'agit pas pour nous de minimiser les péchés des perdus, et surtout pas d'imiter les iniquités de ce monde, loin s'en faut. Mais il n'est pas agréable à Dieu, je pense que ce n'est pas agréable à Dieu, quand nous avons cette attitude méprisante du pharisien, l'attitude méprisante de Simon. Car lorsqu'un pécheur se repent, quelquefois le poids de ses péchés, eh bien, il va honorer le Seigneur bien plus que ne peuvent le faire des propres justes ou même des chrétiens tièdes. Hein, on le remarque déjà quand certains se convertissent avec le cœur de Dieu. Ils ont une attitude quelquefois bien plus vivante que d'autres qui sont chrétiens depuis longtemps. On le remarque, hein. Nous sommes appelés à manifester la miséricorde et la compassion du Seigneur, nous le savons bien, envers les perdus. N'oublions pas que c'est pour ce monde pécheur, c'est pour un monde corrompu que Dieu a donné son Fils. C'est un monde pécheur et corrompu que Dieu a aimé. Il n'a pas aimé son péché, mais il a aimé ce monde. Il a aimé les pécheurs jusqu'à donner ce qu'il avait de meilleur, jusqu'à donner le Fils qui faisait ses délices. Alors la bénédiction suprême, mais nous l'avons chantée, je crois d'ailleurs, c'est la présence du Seigneur au milieu de nous. Amen. Jésus, après s'être offert en sacrifice jusqu'à donner sa vie, jusqu'à verser son sang pour des rebelles, il ne nous délaisse pas, bien sûr, et il nous a promis sa présence. Lorsque nous assemblons en son nom. Il est l'invité d'honneur de nos rassemblements. Il est l'invité d'honneur de nos rassemblements. Alors la bénédiction suprême, c'est la présence du Seigneur au milieu de nous, bien sûr, mais il s'ajoute là quantité de bénédictions. Il s'ajoute quantité d'exaucements. Alors bien sûr, ce verset de Matthieu 18, 20, on le cite souvent, hein, lorsque deux ou trois sont assemblés. En mon nom, je suis au milieu. Mais il faut quand même remarquer qu'il y a un petit quart, là où deux ou trois. Ça veut dire qu'on a dit quelque chose avant et qu'on est, par ce petit quart, on énonce la raison de ce qu'on vient d'affirmer. Vous connaissez le verset 18-19, il a peut-être été cité d'ailleurs, parce que je crois qu'il y avait quelque chose sur la prière dans les prédications. Hein. Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le petit quart, on ne peut pas l'oublier. On trouve trois conditions. S'accorder, demander, et il y a une condition, être assemblé, bien sûr, dans le nom de Jésus, en quelque sorte. C'est être en lui. C'est être en lui, en sa personne. Et bien sûr, j'ai remarqué, moi, que beaucoup de petits quarts dans la Bible, on avait tendance à les oublier. C'est dommage, parce que ça peut produire bien des dérives, quelquefois. Ah oui, c'est important. Alors, si nous sommes en lui, et qu'il est en nous, bien évidemment, hein, il y a l'exaucement par notre bon Père Céleste. Mais il y a une condition, il y a des conditions, c'est l'accord. Et accorder, pas seulement sur la demande, c'est qu'on soit, nous, accordés. Hein? Accordés sur le terrain de la parole. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais est-ce que le Seigneur a quelque chose à nous dire en ce qui concerne la manière dont nous l'accueillons dans nos rassemblements? Moi, je crois et je suis convaincu que nos rassemblements sont bénis aussi dans la mesure où nous nous y préparons. On ne peut pas arriver, occuper, oh, on arrive, bon, très bien. Mais c'est quand même meilleur quand on se prépare devant le Seigneur, quand on lui présente aussi le moment du culte, on lui demande de conduire, et qu'on se prépare soi-même. Voilà, c'est important. Hein, il est bon qu'il soit honoré, comme Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur Jésus. Il est bon aussi, pendant ce culte, que... dans toute la place... Bon. Ouais. Il est bon que nos pensées ne s'égarent pas. Vous savez, on est humain, pensée vaine et chose vaine, on chantait ça pendant un temps. Hein? Quelquefois, ils viennent nous assaillir aussi. Il faut que nos pensées soient sur le Seigneur, nos pensées soient en Christ. Moi, je me souviens dans une petite assemblée, c'était à Louvier, je crois d'ailleurs. Il y avait un frère qui venait de la région parisienne, et puis la prédication était un petit peu plus longue, côté de l'habitude, je ne sais pas. Il y avait une grand-mère qui était derrière, là, une brave mémé. Hein. À un moment donné, elle a dit tout haut, « Tout ça, on le sait, moi j'ai mon rôti qui est dans le four. » Donc, elle était en communion avec son rôti, moi si j'ai bien compris. Et oui, et oui. Les désaccords des enfants de Dieu attristent quelquefois le Saint-Esprit. Jésus peut dire si deux s'accordent. Il emploie vraiment le minimum pour qu'il y ait un accord. C'est pas évident, c'est le plus petit nombre. Et le mot employé, nous savons, c'est symphonéo, qui a donné symphonie dans notre langue, qui est un ensemble de sons qui forment une harmonie. Bah, nous le savons. L'harmonie n'est pas basée sur nos avis. Elle n'est pas basée sur nos raisonnements, mais elle va être basée sur la base de la parole de Dieu. Or, c'est important, c'est notre terrain commun pour accueillir Jésus, qui est la parole faite chair.
Amen.
Moi, je ne suis pas certain que dans les lieux dédiés au culte, quelquefois on le dit, mais le Seigneur est arrivé avant. Je ne pense pas qu'il soit arrivé avant. Je pense qu'il est arrivé quand il y en a deux ou trois qui sont assemblés. Hein? Il n'est pas en retard, jamais. Mais je ne pense pas qu'il soit arrivé avant. Quelquefois on le dit, je ne sais pas, mais enfin bon, c'est pas grave. Mais il est là quand deux ou trois sont unis de cœur. Or, pour que le culte soit agréé au Seigneur, nous savons, Hébreux 12, 28 nous en parle, il faut... au minimum la reconnaissance. Reconnaissance, piété, crainte respectueuse. Ça va être l'expression de cœurs sanctifiés en accord qui ont un même amour, une même foi, qui vont s'élever vers le Seigneur pour l'adorer et le louer. Il est indispensable que dans la présence du Seigneur, il s'élève une symphonie des cœurs. Une symphonie des cœurs. Pas des personnes... indépendante. Il y a un ancien chant, enfin, un chant si on veut, parce que moi, je pense que David, il a chanté les cantiques de... Jésus, il a chanté les cantiques de David, je veux dire. Oh, ils ne sont pas si vieux que ça. Bon, qui disait, oui, certains chantent pour chasser l'ennui de leur cœur, et d'autres chantent pour apporter la joie au leur. Mais moi, je chante pour adorer mon Dieu. Et moi, je chante pour adorer mon Dieu. Amen. C'est en mon cœur la mélodie d'amour divin, car il est mien et je suis sien, c'est en mon cœur. Alors je l'aime et veux chanter, c'est en mon cœur. Alors si je chante, c'est parce que je l'aime. C'est pareil, c'est pas pour vous distraire. Hein? C'est parce que nous l'aimons que nous faisons retentir nos chants devant le Seigneur. et quand un frère ou une sœur élève sa voix. Amen. Nous sommes un avec lui. Sa louange, c'est la nôtre. Hein? Et elle devient la louange du corps de Christ local. Hein? Elle devient la louange du corps de Christ local. C'est important, c'est pas ma petite louange, c'est pas ma petite prière. Hein? Quand on est réunis, bah, bien sûr, quand on est chez soi, on exprime notre louange, notre prière. Quand on est dans la maison de Dieu, notre prière, notre louange va devenir la prière, la louange du corps de Christ local. Il doit y avoir cette union, cette symphonie au niveau de nos cœurs. Et ceux qui écoutent, bien sûr, et qui ont les cœurs sont dans l'abondance, ils s'écrient Alléluia, Amen. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Ben, au fil des siècles, Dieu a parlé, il a parlé de différentes façons, par des anges, par des visions, par des rêves, par des signes miraculeux, et même d'une voix audible. Lors du baptême de Jésus, « Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu a parlé d'une voix audible. Il a parlé sur la montagne de la Transfiguration. « Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Écoutez-le. C'est ce que dit Hébreux chapitre 1er, après avoir autrefois, plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Aujourd'hui, le Seigneur continue de parler. Il le fait par le moyen de sa parole, il le fait par le moyen de son esprit, il le fait par le moyen de ses enfants, et même quelquefois, il le fait par des inconvertis, pour nous donner à réfléchir. Mais sa manière de parler à chacun et de parler au cœur de chacun, elle varie, quelquefois, d'une personne à l'autre, bien sûr. Mais ce qui importe, c'est que Dieu parle et qu'on l'écoute et qu'on l'entende. Hein? Job 33, vous connaissez, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais est-ce que le Seigneur peut avoir quelque chose à nous dire sur la manière dont nous accueillons les gens du monde? En Jacques chapitre 2 nous exhorte à ne pas faire de différence entre l'homme qui a un anneau d'or et le pauvre, et un habit magnifique, et le pauvre misérablement vêtu. L'Écriture nous exhorte à accueillir avec les mêmes égards les pauvres comme les riches. Alors ça, c'est pas tout à fait dans notre nature humaine. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais Jésus ressuscité avait des choses à dire à ses disciples, à Thomas. Par exemple, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Alors, en tant que chrétien, on n'aurait plus douté, quoi. Non ? Il n'aurait pu y avoir de doute. Quelquefois, on est au fond du trou, c'est pas toujours facile. On est humain. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Alors, si on doute, le Seigneur pourrait venir à nous en disant comme Thomas, mais avance ici ton doigt. Hein ? Avance ici ta main, mets-la dans mon côté, sois pas incrédule, j'ai tout accompli sur la croix de Golgotha, mais c'est aussi pour toi. Reste dans la foi. Alors, Jésus a ressuscité avait quelque chose à dire à Pierre, et vous connaissez ce dialogue avec Pierre, voilà. Il n'est pas bien rendu dans notre traduction, car notre langue est un peu pauvre en matière d'amour, hein. On dit j'aime le Seigneur, j'aime mon conjoint, j'aime mes enfants, j'aime les vacances et j'aime la confiture. Oh, c'est quand même un amour différent. Absolument. Alors, on remarque quand même, Jésus pose trois fois la question à Pierre, mais il emploie son ancien nom, le nom de son début, Simon, fils de Jonas. Il le ramène. Aïe, aïe, aïe. Bon, il va le rétablir, mais il le ramène à sa position de départ, sa position d'humain. Alors, ça ne pouvait rappeler à Pierre plutôt que son état d'homme naturel et pêcheur. Alors, dans le texte, bien sûr, il y a des nuances dans le grec. Hein. Jésus emploie deux fois agapé. Et Pierre répond deux fois par philéo. Bon, dans le texte grec, c'est comme ça. Hein. Bon, puis Jésus va poser une troisième fois et va lui dire « Mais as-tu de l'affection pour moi ?» Alors, Pierre, bien sûr, il vient de lui dire deux fois. Il est quand même un peu affligé. Hein. On comprend. Du renégat, repentant, il va faire un berger. Amen. Un berger pour son peuple. Paix mes petits agneaux. Amen. Mes petits agneaux. Paix mes brebis. Amen. Un jour, le Seigneur m'a parlé. C'était à Couville. C'était au cours d'une réunion de jeûne. Et il m'a posé cette question. J'ai entendu cette voix à l'intérieur. Qu'est-ce que tu aimes le plus ? Oh. Ah. J'étais saisi, hein, c'est vrai, cette voix, elle a résonné, là. C'est pas une, c'est une voix forte, une voix aimante, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le Seigneur a continué, c'est ta timidité. C'est vrai que je n'ai pas la voix, quoi, il y a trop de monde. Dans la minute qui suit, j'ai élevé ma voix pour le Seigneur. La grande assemblée. C'était parti. Le Seigneur m'a même amené jusqu'à apporter la parole. Oui. Mais c'est vrai que j'étais assez timide dans jeune. Mais... Le Seigneur m'a posé cette question, mais qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est ta timidité. Que pourrions-nous répondre à cette question du Seigneur Jésus? M'aimes-tu? Ce que l'humain peut produire à la rigueur, c'est philéo, quoi. C'est pas l'agapé, hein. c'est pas l'amour qui se donne à l'amour de Dieu. Parce que celui-là, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il ne provient pas de la chair, provient pas de l'humain. Hein, l'apôtre disait, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Et bien sûr, c'est dans la mesure où c'est Christ qui vit en nous que le Saint-Esprit va répandre cet amour dans nos cœurs et que nous allons pouvoir le manifester. Alors, on ne va pas s'étendre sur ces choses, mais Jésus ressuscité a parlé. Il avait quelque chose à dire à Saul de Tarse. Ah, pourquoi me persécutes-tu? D'un violent persécuteur, il va faire un apôtre plein de zèle. Amen. La parole de Jésus, elle est extraordinaire quand même. Moi, je sais pas, j'ai témoigné à de nombreux collègues, j'étais encore en activité. Je vais vous dire, celui qui s'est converti, eh bien, c'était le pire des moqueurs, le cas le plus désagréable qui soit, c'est lui qui s'est converti à Christ. Alors, les autres posaient des questions, mais lui, alors, c'était une horreur. Et un jour, je me suis retrouvé avec lui en permanence un samedi matin. Je lui ai à nouveau annoncé l'évangile. À midi, il était converti, je vous assure. Il m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais il s'est passé quelque chose en moi. C'était l'œuvre du Saint-Esprit, pour mon œuvre à moi. Ne nous relâchons pas dans notre service de témoin. Ne nous fions pas aux apparences. Le Seigneur, par son esprit, est capable de pousser à la repentance le pire des pécheurs. Amen. Ah oui, parce que quelquefois, on se dit, celui-là, il est intéressé par l'Évangile, oui. Quelquefois, il est intéressé, il est toujours intéressé, quoi. Ça va plus loin. Mais, quelquefois, on a eu des moqueurs, là. Puis un jour, ils sont pliés. Moi, je me suis trouvé avec des gens, c'était dans une ambulance là, pour descendre à Rouen. Ah bon, j'aurais parlé de l'évangile, etc. Ils se moquaient, quoi, ils rigolaient. Et après, je me suis retrouvé avec cette dame là, en tête à tête. Elle rigolait plus, hein. Elle m'a écouté. Hein. J'ai pu témoigner. Merci Seigneur.
Merci.
Eh oui, c'est plus facile en tête à tête. Quand il y a un tiers qui est là, c'est pas toujours bidon. Jésus ressuscité a parlé, il avait quelque chose à dire à l'apôtre Jean. Il avait la révélation à lui apporter, l'Apocalypse. Remarquons que quand l'apôtre Jean a vu Jésus dans sa gloire, il est tombé comme mort. Lui qui reposait sur son sein lors de la scène. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il n'a pas pu supporter la gloire du Seigneur. Il a fallu que le Seigneur pose sa main droite sur lui. Alors, je crois que même en ayant la plénitude de l'amour et de la foi remplissant nos cœurs, ça ne peut jamais remplacer la crainte, le saint tremblement devant le Seigneur quand nous lui apportons l'adoration de nos cœurs. Peut-il exister un christianisme sans crainte respectueuse et sans humilité? Non, je ne crois pas. Si Jésus était là, visible au milieu de nous, je crois qu'on serait tous dans un saint tremblement devant sa sainteté, devant sa gloire. Oula. Bon, on va pas étudier ce qu'il a dit aux sept églises d'Asie, mais aux églises, on remarque qu'il dit « Je connais tes œuvres, je sais ». Il connaît les œuvres de l'Église, de chacun de ses membres. Rien n'est caché à ses yeux, il connaît les œuvres bonnes. Et celles qui le sont moins, bien sûr. Ce qui est spirituel, et ce qui est charnel, ce qui vient du monde, et ce qui vient d'en haut. On ne va pas étudier tout ça, mais remarquons quand même qu'il n'y a pas que des reproches dans ces lettres. Il y a aussi des encouragements, de puissants encouragements, des promesses pour ceux qui les entendent et qui seront et qui deviendront des vainqueurs en comptant sur la grâce de Dieu. Toutefois, nous aurions tort de négliger les reproches qu'il fait aux églises. Hein, ça peut représenter, on a dit que ça pouvait représenter l'état de l'Église au fil des siècles, que ça pouvait représenter l'état des Églises au dernier moment. Bon, bien sûr, pourquoi pas, hein, y a des choses à garder, à Éphèse, il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors c'est terrible parce que quand on regarde un petit peu le mot abandonner, c'est le mot qui est souvent employé pour la répudiation. Tu as abandonné, c'est très fort, c'est un mot. Poum, il y a une séparation parce qu'il n'y a plus le premier amour. C'est comme dans les couples. Finalement, on revient au problème de Pierre, il y avait bien un sentiment humain d'affection pour le Seigneur. Mais le Seigneur trouve plus dans les cœurs à Éphèse le pur amour, l'amour qui se donne. Vous savez, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ça, c'est l'amour, c'est une caractéristique de l'amour de Dieu, qui est sa nature, la nature divine. Et quand l'amour disparaît, il reste les œuvres du vieux moi, tout ce qu'on peut décider est fait sans amour, par obligation ou différentes... ou pour se valoriser, on a de tout. Hein. Il reste des apparences, une ambiance, il reste des formes de vie. Des formes sans vie, plutôt. Alors à Philadelphie, il dit, Seigneur, la traduction Sommeur, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai alors de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. je te garderai, littéralement, je te réserverai. Je te réserverai. Je te garderai alors de la tentation qui va arriver sur le monde. Enfin, Jésus ressuscité a parlé, il a dit quelque chose aussi à l'église de Laodicée. Et vous connaissez bien sûr tous ces passages. « Puisses-tu être froid ou bouillant parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Oh Seigneur, aide-nous à avoir ce feu intérieur, être bouillant pour toi. Seigneur a dit « Je te vomirai ». Mais ce n'est pas des mots en l'air, c'est pas pour nous faire peur. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. C'est sérieux? C'est sérieux que le Seigneur nous fasse grâce. Hein? Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans sa patience, dans son amour, il dit encore à la aussi, il dit, c'est « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui. » C'est quand même extraordinaire. Mais le Seigneur n'est pas à la porte de l'Église à la Odyssée, il est à la porte des cœurs. Si quelqu'un m'ouvre, c'est ça, non ? C'est plus la même chose. On est dans les temps de la fin, vous savez. Et à ceux qui vont lui ouvrir et lui faire toute la place, qu'est-ce qu'il offre ? Un souper d'amour. Il offre un avant-goût du souper céleste. Il offre un avant-goût des noces de l'agneau. C'est ça que le Seigneur veut offrir à celui qui lui ouvre la porte et qui le reçoit pleinement dans son cœur et qui a cette communion vivante, ce qui vit avec cette communion vivante avec lui. C'est extraordinaire. C'est un repas d'amour, la main dans la main, les yeux dans les yeux. C'est ça que le Seigneur désire nos cœurs. C'est ça qu'il désire. Alors je vais arrêter là. Mais vous savez, Apocalypse 22, 20, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Tout nous le démontre aujourd'hui. Tout nous le démontre. Soyons prêts. Levons les yeux. Faisons toute la place au Seigneur de gloire. Et nous disons « Amen, viens Seigneur Jésus ». Vous dites avec moi « Amen, viens Seigneur Jésus ». Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Ô notre Seigneur, combien nous voulons te bénir. Ô Seigneur, aide-nous, Seigneur, à rejeter toute tiédeur. Notre désir, c'est d'être bouillant pour toi. Que ton esprit nous remplisse, nous conduise, nous dirige, afin que nous soyons rendus capables d'accomplir ta volonté. Remplis-nous de ta force, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta sagesse, que dans ces temps de la fin, réellement les tiens puissent briller comme des flambeaux dans ce monde qui est de plus en plus dans les ténèbres. Ô Père, fais grâce. Sauve encore autour de nous toutes ces gens sans espérance, sans foi. Te demandons ta grâce et bénis les tiens. Aide chacun à sa